Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bienheureuse êtes-vous, ô Vierge Marie, que le Seigneur, le Dieu Très-Haut, a bénie plus qu'aucune autre femme sur la terre. Mes très chers frères, ce sont les paroles du graduel de la fête de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie que vous venez d'entendre. Et il convenait, dit Pie IX dans la bulle Ineffabilis Deus, que le Fils, il convenait que le Fils unique qui a au ciel un Père que les séraphins proclament trois fois saint, eut sur terre une mère qui eut dans tout son éclat la splendeur de la sainteté. Il y a dans cette fête de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie quelque chose de très consolant, de très encourageant, de très fortifiant pour nous chrétiens, et quelque chose aussi de très instructif. Et c'est ce que nous allons essayer de voir avec l'aide du Saint-Esprit. Nous verrons dans un premier temps que tous les privilèges de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie doivent être la mesure pour comprendre en quoi consiste et quels sont les effets du péché originel. Et nous aurons un certain nombre de choses à voir fondamentales là-dessus, et si nous ne les intégrons pas, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Ensuite, avec l'aide du Saint-Esprit, nous verrons comment le triomphe de la Très Sainte Vierge Marie et le triomphe de la grâce, et comment les pères s'accordent tous pour voir en elle, eh bien, celle qui a écrasé de son pied, de son talon, la tête du serpent ancien, et nous verrons exactement comment cela se fait et comment cela a été possible, comment cela est possible. Et enfin, nous terminerons en continuant sur le même thème et en voyant un certain nombre de choses qui peuvent être instructives pour nous vivant dans cette période si triste et si sombre de la fin des temps. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Dans le verset de l'Alléluia, voici ce qui est dit. Vous êtes toutes belles, ô Marie, et la tâche originelle n'est point en vous. Alléluia. C'est un dogme que nous devons adopter comme faisant partie de la foi catholique, que la Très Sainte Vierge Marie a été exemptée, préservée du péché originel, non pas simplement purifiée du péché originel comme les prophètes, comme certains prophètes, comme Saint Jean-Baptiste, mais véritablement préservée du péché originel. Il n'y a eu aucun instant dans son existence temporelle où la Sainte Vierge ait été sous l'empire du démon. Et donc, cela confère à la Très Sainte Vierge Marie une beauté qui est une beauté tout à fait surnaturelle, et là, on peut utiliser cette expression, ce mot, d'une façon très propre. C'est une beauté surnaturelle. Vous êtes toute belle, ô Marie, et la tâche originelle n'est point en vous. Si elle est belle, c'est que la tâche originelle n'est pas en elle. Faisons très attention, mes très chers frères, à toujours envisager la Très Sainte Vierge Marie comme étant la créature la plus privilégiée de tout l'univers, de tous les temps et de toute la création. Bien sûr, elle est belle en elle-même, et lorsque nous la contemplons, nous voyons une personne qui est sans tache, magnifique, glorieuse, etc. Néanmoins, nous voyons avant tout une personne privilégiée. Pourquoi disons-nous cela ? À notre époque, surtout après la Révolution, quand on parle de privilèges, évidemment, on a toujours une petite goutte de sueur froide qui coule quelque part dans le dos ou sur les tempes, et on se dit, est-ce bien honnête d'être privilégié ? La Sainte Vierge est privilégiée. La Sainte Vierge est tout entière un privilège. La Sainte Vierge est tout entière une exception. C'est pour cela qu'elle est belle, c'est pour cela qu'elle est magnifique, c'est pour cela qu'elle est, que nous aimerions dire qu'elle est divine, si elle n'était une créature. Cette beauté est une beauté qu'elle tient de Dieu. Lorsqu'un roi accorde un privilège, il donne à quelqu'un, à une personne, à une famille, à une ville, à une contrée, un avantage que cette personne, ou cette ville, cette famille n'avait pas avant. La Très Sainte Vierge Marie a reçu un privilège avant même de commencer à exister. Donc s'il y a des villes privilégiées, s'il y a des familles privilégiées, s'il y a des personnes, des individus privilégiés, elles ont été néanmoins quelque chose avant de recevoir leur privilège. Encore une fois, parce que un prince, par exemple, un roi, ne peut pas donner un privilège à quelqu'un qui n'existe pas. Encore, il y aurait simplement peut-être une comparaison à faire, c'est que quand il donne un privilège héréditaire à une famille, il accorde ce privilège à tous les enfants qui viendront par la suite à cette famille. Pour ça, c'est une sorte d'analogie. La Très Sainte Vierge Marie n'a pas reçu un privilège après avoir commencé à exister. Elle a reçu un privilège lorsqu'elle était encore dans la pensée de Dieu, comme toute chose, mais elle était dans la pensée de Dieu d'une façon suréminente. Il y a un grand mystère avec la fête de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire que, d'une part, le pape Pie IX a défini que la Très Sainte Vierge Marie avait été préservée, exemptée du péché originel, dès le premier instant de son existence. Et par ailleurs, la Très Sainte Vierge elle-même, dans cette révélation authentifiée par l'Église, et il n'y en a pas beaucoup, qu'est la révélation à Sainte Bernadette de Lourdes, la Sainte Vierge dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Donc, d'une certaine manière, elle confirme le dogme, et si j'ose dire, elle l'explicite, dans le sens où ce n'est pas simplement que la Très Sainte Vierge Marie a reçu un privilège, c'est qu'elle est un privilège. Elle est un privilège, et comme nous le verrons, comme dit l'encyclique Ineffabilis Deus, elle n'a de commun avec Adam que la nature, et non pas la faute. Et c'est cela en quoi consiste son privilège, qui est si constitutif de sa personne, qu'elle est elle-même tout entière, définie par le privilège qui la caractérise, et elle a reçu ce privilège avant même que d'exister. Alors pourquoi disons-nous cela? C'est pour annoncer que, comme nous l'avons dit, la beauté de la Très Sainte Vierge Marie, par la beauté de la Très Sainte Vierge Marie, nous pouvons percevoir la hideur du péché originel. Je vais citer maintenant plusieurs passages de l'encyclique Ineffabilis Deus, afin que nous puissions, par contraste, comprendre par ce que la Sainte Vierge est, tout ce que nous ne sommes pas. La Bienheureuse Vierge Marie, dit Pie IX, a été aimée de Dieu par-dessus toutes les créatures, à ce point qu'il a mis uniquement en elle toutes ses complaisances. Évidemment, ce n'est pas exclusif de la parole du Père au Fils lors de son baptême. « Voici mon Fils en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le. » Maintenant, nous ne parlons pas de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est au-dessus de tout, et bien entendu au-dessus de la Très Sainte Vierge Marie, puisqu'il est Dieu. Nous parlons de la Très Sainte Vierge Marie, et si l'on peut dire que Dieu aime une créature, on doit le dire par excellence de la Très Sainte Vierge Marie. Dieu a mis donc, et nous le verrons par la grâce du Christ, toutes ses complaisances dans la Bienheureuse Vierge Marie, et c'est pour cela qu'elle n'a pas le péché originel. Donc, ça signifie que celui qui possède le péché originel, de par le fait qu'il soit un descendant d'Adam, n'est pas le sujet de l'amour de Dieu. Ce n'est pas que l'on ne puisse dire qu'il est sujet de l'amour général du Dieu créateur pour ses créatures, selon qu'il est écrit « Vous ne haïssez aucune des créatures que vous avez faites ». Mais il ne l'aime pas d'un amour salvifique. Le fait que Dieu ait aimé Voltaire, Staline, d'autres encore, plein d'autres, en tant que créature, et qu'il leur ait accordé jusqu'à un certain point, pendant un certain temps, la santé, un soulagement de leur misère, que sais-je, ne veut absolument pas dire qu'il les ait aimés à salut. Dieu aime l'homme marqué par le péché originel, comme il aime les moustiques, les sangsues, les limaces, les lions, les panthères, les vaches, les veaux, les bœufs, les moutons, toutes les créatures Et de toutes les créatures, l'homme est peut-être celle qui, paradoxalement, est la moins aimée de Dieu, parce qu'il ressemble plus à Dieu. Vous vous souvenez cette comparaison que nous utilisons de temps en temps, du blason du roi qui tombe dans la boue. Il y a quelque chose qui offense le roi, c'est de voir non pas les chaussures de ses sujets qui pataugent dans la boue quand il pleut, mais c'est de voir son blason qui est tombé dans la boue et qui est souillé par la boue. C'est la même boue. Mais, d'une certaine manière, quand on marche dans la boue quand il pleut, c'est un peu normal. Il n'y a rien de bien offensant à cela, c'est l'hiver. Maintenant, il se trouve que lorsque l'image de Dieu, cette créature, faite pour être le Dieu terrestre des créatures, est tombée, autant Dieu l'aimait autrefois et venait se promener avec elle dans le jardin d'Éden, autant il l'a détestée par la suite. Il l'a détestée, nous allons voir qu'il l'a aimée aussi. Mais il se trouve que, puisqu'il nous a aimés en notre Seigneur Jésus-Christ, la seule chose, la très sainte Vierge Marie est spontanément aimée par Dieu. L'homme qui vient au monde est spontanément haï par Dieu, du point de vue salvifique. Dieu déteste tellement l'enfant qui vient d'être mis au monde à cause du péché originel qu'il impose à ses parents de le faire baptiser afin de pouvoir l'aimer. Dieu a donc en horreur, mes très chers frères, tout homme qui vient au monde et qui est souillé par le péché originel, et cela se voit par l'amour incommensurable dont il aime la très sainte Vierge Marie, qui est une créature humaine, exempte du péché originel. La Bienheureuse Vierge Marie, c'est la suite de l'encyclique, et le pape Pie IX cite un certain nombre de citations des pères, des louanges que les pères adressent à la très sainte Vierge Marie. La Bienheureuse Vierge Marie est un lys parmi les épines. Rien que cela devrait nous faire comprendre, mes très chers frères, que si elle est un lys, nous sommes des épines. Et c'est exactement ce que dit saint Chrysostome lorsqu'il dit que lorsque la terre a commencé à produire des épines, cela n'a été que le reflet de la terre humaine qui a commencé à produire les épines de la concupiscence qui sont là pour étouffer le bon grain. La très sainte Vierge Marie est un lys parmi les épines. Elle n'est pas la première parmi une multitude d'autres. Elle n'est pas finalement en mieux ce que nous sommes plus ou moins par défaut. Elle est un lys, nous sommes des épines. Elle est une terre intacte, disent les pères. Nous sommes une terre souillée. Le démon a planté sa tente sur la terre que nous sommes, et vous savez très bien, mes très chers frères, que nous avons beau être baptisés, nous sommes blessés par le péché originel, de telle sorte que le péché originel est en quelque sorte comme imprimé en nous, moins bien évidemment que le caractère sacramentel du baptême, bien entendu, qui fait de nous des enfants, qui fait de nous des vrais enfants de Dieu, mais nous sommes blessés par le péché originel. La Bienheureuse Vierge Marie n'a jamais été blessée par le péché originel. Imaginez que la Bienheureuse Vierge Marie n'a jamais été purifiée, n'a jamais été guérie du péché originel. Et nous, ayant été baptisés, néanmoins, nous sommes encore largement blessés, nous avons cette vulnération suite au péché originel. La très sainte Vierge Marie a été préservée, elle n'a pas été guérie. Nous avons été guéris d'un certain nombre d'effets du péché originel, et c'est surtout l'effet moral, c'est-à-dire que la dette que nous avons contractée envers Dieu a été effacée par le baptême. Néanmoins, nous restons profondément blessés par le péché originel. Et c'est là tout le drame décrit par saint Paul. Je fais ce que je veux, je ne le fais pas, etc. Deux choses combattent en moi, l'esprit et la chair. Elle est, nous disent les pères, elle est vierge, elle est sans tache, elle est sans souillure. Elle est toujours bénie et affranchie de toute contagion du péché. Et nous sommes exactement le contraire. Nous commettons l'adultère bien souvent avec le diable, dans le dos de Dieu, si j'ose dire. Nous sommes tachés avec des souillures. Et c'est pour cela que le bon Dieu, qui nous aime tant dans son Fils, nous a donné le sacrement de pénitence. Nous sommes salis, tachés, souillés. Elle est toujours bénie. Nous sommes bien souvent dans une condition où nous nous privons de la grâce, et donc nous sommes dans une condition de malédiction. Elle est affranchie de la contagion du péché, Et nous, nous l'avons dit, nous sommes marqués comme des convalescents qui ne peuvent pas cacher le fait qu'ils aient été malades. Nous sommes marqués par le péché originel qui sans cesse se réactive en nous, en quelque sorte. Même si nous sommes morts et ressuscités dans le Christ, et que nous ne sommes plus ce que nous étions. Ce que nous étions est si laid, si tenace, que nous continuons à en avoir l'air, même si nous ne le sommes plus. Elle est, nous disent les pères, la terre dont a été formé le nouvel Adam. Et c'est ce que dit saint Paul lorsqu'il dit qu'il faut que le Christ croisse en nous, naisse dans notre cœur. C'est tout le thème de l'Avent d'ailleurs. Elle est cette terre duquel a été formé le nouvel Adam, et nous, ce n'est que d'une façon très laborieuse et par renoncement, un renoncement perpétuel à nous-mêmes, que le nouvel Adam peut être formé en nous, et c'est jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite du Christ. Elle est un paradis irréprochable, rempli de lumière et de tous les agréments de l'innocence et de l'immortalité. Et nous, même si nous sommes en état de grâce, nous avons en nous cette concupiscence qui continue à combattre et qui fait courir à la moindre de nos bonnes œuvres le risque d'être souillé, voire anéanti, si prévaut la concupiscence. Elle est un paradis de délices établi par Dieu lui-même à l'abri de toutes les embûches du serpent venimeux. Et nous, lavés par l'eau de la régénération qu'est le baptême, bien souvent, nous nous tournons et nous allons à la recherche du serpent ancien pour tomber, non seulement pour tomber dans ses mensonges, dans ses ruses, dans ses pièges, mais encore pour le solliciter pour qu'il nous donne des conseils. Et c'est chaque fois que nous nous écoutons nous-mêmes et que nous détournons l'oreille de la loi de Dieu pour ne pas accomplir ses commandements. Elle est, nous disent les pères, un bois incorruptible que le ver du péché n'a pu altérer. Et nous, bien souvent, nous sommes rongés, nous sommes un bois propre et bon à l'extérieur et rongés à l'intérieur par la concupiscence et par l'amour propre. Elle est une fontaine très limpide et portant le sceau de la vertu du Saint-Esprit, nous disent les pères. Et nous, Saint-Jacques nous dit que nous sommes souvent une fontaine dont coule une eau amère et une eau douce, alternativement, nous bénissons Dieu et nous maudissons nos frères. Elle est un trésor d'immortalité, et nous, nous sommes mortels. Elle est l'unique et seule fille, non de la mort, mais de la vie. Et nous, nous sommes par nature des enfants de colère. Nous avons été rachetés, régénérés par le baptême, mais nous étions des enfants de colère, et comme nous l'enseigne la parabole du serviteur impitoyable, nous risquons sans cesse, à chaque instant de notre existence, de nous revoir imputer à nouveau l'entièreté de notre dette d'enfants de colère, dans la mesure où nous ne pardonnons pas à notre prochain, où nous ne vivons pas selon la vie nouvelle, les critères de la vie nouvelle que nous a prescrit l'Évangile depuis que nous sommes convertis, depuis que nous sommes baptisés. Elle est un germe, non de la colère, mais de la grâce. Et bien souvent, non seulement nous déplorons de ne pas faire usage aussi bien de la grâce que nous devrions, mais encore, nous nourrissons en nous-mêmes les germes de la colère, c'est-à-dire nous nourrissons en nous-mêmes tout ce qui excite la colère de Dieu. Parce que pourquoi ? Parce que nous l'aimons bien. Nous aimons bien ce qui nous plaît, et nous aimons l'entretenir, même au détriment de l'amour de Dieu. C'est un paradis lequel, par une extraordinaire providence, est sorti, sans jamais perdre sa verdure, et en dehors, la Très Sainte Vierge Marie, par la providence, sans jamais perdre sa beauté, et en dehors des lois de la nature et des lois communes, elle est sortie d'une racine corrompue et infectée. C'est-à-dire que la Très Sainte Vierge Marie, en tant que vraie fille d'Adam, c'est-à-dire que la Très Sainte Vierge Marie n'est pas une théophanie, n'est pas une incarnation illusoire d'un ange, elle est une véritable créature humaine, elle est une véritable fille d'Adam. Et bien, contrairement aux lois établies et aux lois communes de l'hérédité, elle a été préservée du péché originel qui provient de la racine corrompue et infectée de laquelle elle est sortie, et de laquelle nous sortons tous. Lorsque l'Écriture dit « Vous êtes toute belle, ô Marie, et la tâche originelle n'est point en vous », eh bien, nous comprenons que cette beauté est le miroir dans lequel, en quelque sorte, dans lequel nous devons nous contempler pour apprendre combien nous sommes corrompus. Et ne venez pas dire, mes très chers frères, nous sommes chrétiens, nous sommes lavés du péché originel par le bain du baptême. Évidemment, cela est vrai, mais comment se fait-il que nous soyons si laids? Comment se fait-il que, par rapport à la très sainte Vierge Marie, qui est un lys, nous ne soyons que des épines? Les saints ressemblent largement à la très sainte Vierge Marie, encore qu'ils ne lui ressembleront jamais totalement, puisqu'ils ont été quelque chose avant. Même les saints comme Saint Nicolas, dont c'était la fête il n'y a pas si longtemps, même les saints qui louaient Dieu dès leur berceau, ne l'ont fait qu'en vertu du baptême qu'ils ont reçu. Pendant un certain nombre de jours, même très bref, ils n'ont pas été autre chose que des enfants de colère voués à la damnation, parce qu'on ne peut pas, être sauvé sans le baptême. Eh bien, mes très chers frères, la très sainte Vierge Marie est la reine des saints, parce que les plus grands saints, et tous les saints sont grands, eh bien, seront toujours inférieurs à la très sainte Vierge Marie, parce qu'il fut un temps où ils n'étaient pas ce qu'ils ont été, et ce qu'ils sont maintenant, alors qu'elle a toujours été ce qu'elle est. Dans l'intro 8, la deuxième partie, il est dit, exalte ta beauté, je vous exalte, Seigneur, car vous m'avez tiré de l'abîme, et vous n'avez pas réjoui mes ennemis à mon sujet. Les pères nous disent que la très sainte Vierge Marie a été la réparatrice de la faute, je cite toujours l'encyclique, a été la réparatrice de la faute de nos premiers parents, elle a été une source de vie pour leurs descendants, choisie de toute éternité et préparée par le Très-Haut. Et, autre citation, qu'en conséquence, elle a été pour le Christ un tabernacle digne de lui, non pas à cause de la condition de son corps, mais en raison de la grâce originelle qu'elle a reçue. Il y a quelque chose de remarquable dans la très sainte Vierge Marie, c'est que si elle est le contraire de notre première mère, Ève, qui reçut par la suite son nom d'Ève, elle n'est pas son équivalent. Je vais expliquer, et c'est un point extrêmement important, et malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion à ce sujet. Notre première mère, Sainte Ève, était dans un état d'innocence, comme son mari, Adam. Il se trouve que, avec la grâce qui était donnée gratuitement avec l'état d'innocence, elle pouvait ne pas pécher. Le serpent est venu, qui était le plus rusé de tous les animaux de la création, il lui a parlé, il lui a dit les paroles que vous connaissez, elle a répondu, et Bossuet disait qu'il n'aurait fallu justement pas répondre. Elle a répondu néanmoins, elle a regardé l'arbre, et elle en a mangé, et elle en a donné à son mari. Elle a librement choisi d'obéir au serpent. Alors vous allez dire, donc la très sainte Vierge Marie a librement choisi d'obéir à Dieu. Faux. La très sainte Vierge Marie a été, dit l'encyclique, choisie de toute éternité, préparée par le Très-Haut, pour être une source de vie pour les descendants d'Adam. C'est-à-dire que la très sainte Vierge Marie n'était pas, à un certain moment de son existence, dotée de la grâce qu'avait, une grâce qui, somme toute, est assez minimale, la grâce qu'avaient nos premiers parents dans le paradis terrestre. À notre première mère, Ève, Dieu avait donné une grâce suffisante pour ne pas pécher. À la très sainte Vierge Marie, il lui a donné une grâce qui a fait qu'elle est ce qu'elle est, entièrement par la grâce de Dieu, et c'est pour cela qu'elle est dite la réparatrice de la faute de nos premiers parents. Vous allez dire, mais donc du coup, elle est moins libre que notre première mère Ève, et donc, d'une certaine manière, elle, d'après ce que vous dites, d'après ce que je viens de dire, on ne peut pas vraiment dire qu'elle ait défait la chute, puisque elle n'avait pas la liberté dont jouissait notre première mère. Mes très chers frères, faisons très attention à ce que nous disons. Vous voyez que la liberté dont jouissaient nos premiers parents courait le péril d'être mal employés. Et malheureusement, c'est ce qu'ils ont fait. Pourquoi ? Parce que la grâce qu'ils avaient n'était pas la grâce du Christ. La grâce qu'ils avaient était une grâce de Dieu proportionnée à leur état d'innocence, et c'était déjà quelque chose d'extraordinairement grand, puisque grâce à cette grâce, par cette grâce, ils pouvaient ne pas pécher. Mais ils ont péché, de telle sorte que pour réparer cette faute, il faut une grâce plus grande. Et si notre première mère, Ève, avait une grâce proportionnée à son état d'innocence, la Très Sainte Vierge Marie a reçu une grâce proportionnée au privilège qui est le sien. Il y a quelque chose de presque incompréhensible dans le privilège qui a été donné à la Très Sainte Vierge Marie, lorsqu'on note cette idée fausse que la Très Sainte Vierge Marie a volontairement obéi à Dieu. Quand je dis volontairement, je ne dis pas que sa volonté n'a pas obéi à Dieu d'une façon libre. Bien entendu, je ne dis pas cela. Je dis que sa volonté a été, et c'est l'encyclique même qui le dit, je vais le citer, a été si bien secondée, fortifiée, mue, vivifiée par la grâce du Christ, qu'elle a fait spontanément et librement le choix que nos premiers parents n'ont pas fait, quoique ce choix corresponde à leur nature. Il n'était pas inscrit dans la nature de nos premiers parents de devoir nécessairement obéir au serpent. Et pourtant, ils l'ont fait. Qu'est-ce qui était inscrit dans la nature de nos premiers parents ? D'obéir à Dieu et de recevoir ses dons. La Très Sainte Vierge Marie, par la grâce du Christ, a reçu la grâce qui a mû sa volonté, de telle sorte qu'elle a pu, contrairement à notre première mère Ève, elle a pu vouloir ce que Dieu veut pour la nature humaine. Et donc sa volonté a fait un acte beaucoup plus grand lorsqu'elle a dit « fiat » que lorsque notre première mère Ève a fait un acte de volonté et a dit a obéi finalement au serpent. D'ailleurs, le fiat vient, si j'ose dire, longtemps après la conception immaculée de la Très Sainte Vierge Marie, et longtemps après, si cette expression a un sens, le dessein, le décret de Dieu qui la préservait du péché originel en vertu de la grâce du Christ. La Très Sainte Vierge Marie, si elle est la réparatrice de la faute originelle, si l'acte de sa volonté par laquelle elle est devenue mère de Dieu a été le contraire de la chute, c'est parce qu'elle a reçu du Fils qu'elle devait mettre au monde la grâce anticipée. Alors vous allez dire, mais on dirait que vous enlevez, je n'arrive pas à m'ôter de l'esprit, que vous enlevez de la gloire de la Très Sainte Vierge Marie en la rendant en quelque sorte dépendante d'une grâce sans laquelle nous, d'une grâce qui sans sa maternité, nous n'aurons pas, que sans sa maternité, nous n'aurions pas pu recevoir, en l'occurrence, la grâce du Christ. Le Christ est le Fils de la Très Sainte Vierge Marie, évidemment. La Très Sainte Vierge Marie est véritablement la Mère de Dieu, c'est vrai. Mais, comme dit la liturgie, elle a mis au monde son propre Créateur. Donc, la Très Sainte Vierge Marie, dans le temps, précède le Christ parce qu'elle est sa mère, mais dans l'éternité, elle procède de la volonté et de la volonté de Dieu et de la grâce du Christ. Puisque la grâce du Christ n'est pas venue simplement par le ministère temporel du Messie, mais la grâce du Christ vient de sa nature même. Il est plein de grâce et de vérité. Donc voyez, mes très chers frères, il ne faut pas s'imaginer que nous rabaissons la Très Sainte Vierge Marie lorsque nous n'en faisons pas une créature autonome, indépendante de Dieu, et qui, à ce titre-là, est admirée par Dieu. Si c'était le cas, nous tomberions dans l'erreur gnostique qui consistait à dire qu'il y a deux dieux coéternels. Alors eux disaient qu'ils se battaient, il y avait un dieu bon et un dieu mauvais, et là nous dirions simplement qu'il y a un dieu Père, Fils et Saint-Esprit, et face à lui, une merveille, une sorte de déesse, la Très Sainte Vierge Marie, qui est si belle, si grande, si immaculée, etc., que Dieu la désire pour être la mère de son Fils. Il y a quelque chose d'horriblement païen dans cette façon de faire, et pas du tout chrétien. La Très Sainte Vierge Marie n'existe pas sans Dieu. La Très Sainte Vierge Marie est une créature. Déjà, elle n'est pas une déesse. On a cru à tort que, lorsque Pie IX a promulgué ce dogme, on a cru que les catholiques s'étaient dotés d'une déesse. Et j'aimerais bien que certains catholiques n'en aient pas eu l'impression. Les protestants l'ont dit, ils se trompaient. Certains Certaines personnes qui ne comprenaient pas l'intention du pape ont pu le dire aussi, ils se trompaient. Mais certains catholiques sont allés jusqu'à s'imaginer que la promulgation du dogme de l'Immaculée Conception constituait en quelque sorte la Très Sainte Vierge Marie dans une autonomie face à Dieu, de telle sorte que nous voyons un Dieu qui est en quelque sorte béat d'admiration devant une créature qui, bon, alors on dit c'est une créature, c'est sa créature, etc., mais à part le fait d'être sa créature, est tellement belle en elle-même que Dieu l'aime. Si Dieu l'aime, c'est pour la même raison qu'il aime son Fils. Et c'est-à-dire, d'ailleurs, c'est en son Fils qu'il l'aime. Pourquoi Dieu aime-t-il sa créature, la Très Sainte Vierge Marie? C'est parce que c'est lui qui l'a faite. C'est parce qu'elle est entièrement dotée de tout ce que lui a voulu lui donner. Si j'osais une comparaison, un concepteur d'une voiture, ce n'est pas du tout la même chose, mais vous me pardonnerez cette comparaison qui est très très basse, mais qui n'est pas sans analogie. Le concepteur d'une voiture, le sculpteur d'une statue, mais prenons plutôt le concepteur d'une voiture, pour pas éviter les confusions. Le concepteur d'une voiture, lorsqu'il fabrique, lorsqu'il tire de son esprit, de son intelligence, une voiture qui lui plaît en tout point, est très entiché de sa voiture. Pourquoi? Parce qu'elle correspond parfaitement à ce qu'il entendait faire en tant que fabricant de voitures. On pourrait avoir quelqu'un qui voit une belle voiture dans la rue et qui tout d'un coup s'en entiche et voudrait l'acheter pour l'avoir. Mais ça, ce n'est pas. Ça, c'est quelque chose d'humain. Lorsque l'homme découvre ce trésor dans son champ, dans un champ qui n'est pas à lui, il vend tout ce qu'il a pour acheter le champ. Mais Dieu possède tout. Dieu n'a pas vu la Très Sainte Vierge Marie et n'a pas désiré de la voir. S'il a désiré la voir pour lui, c'est parce qu'il l'a créée pour lui. Et c'est pour cela que l'on parle de la prédestination, de l'élection de la Très Sainte Vierge Marie pour être ce qu'elle a été. Malheureusement, on s'imagine parfois que la Très Sainte Vierge Marie, parce qu'on entend mal certaines expressions, on s'imagine que la Très Sainte Vierge Marie est une créature plus grande et plus forte que Dieu, puisqu'on dit que tout ce qu'elle lui demande, Dieu lui accorde. Et c'est vrai. On dit qu'elle a un ascendant irrésistible sur la volonté de Dieu. Et c'est vrai. Mais pourquoi ? Parce que la Très Sainte Vierge Marie, étant préservée du péché originel, n'a strictement rien en elle qui empêche Dieu de combler tous ses désirs et d'exaucer tous ses vœux, parce qu'elle est le miroir sans tache de la divinité. Si Dieu aime tellement la Très Sainte Vierge Marie, c'est que contrairement à nous, elle est absolument sans tache. Quand il la scrute de son œil et de son regard divin, il ne trouve en elle rien qui ne lui plaise. Pourquoi ? Parce qu'il se voit en elle, puisqu'elle est un miroir sans tache. Elle n'est pas une créature, une chose indépendante de Dieu, belle en soi, et qui aurait en quelque sorte séduit Dieu et soumis Dieu à son empire. Il y a là encore une fois quelque chose d'horriblement païen. Lorsque l'encyclique nous dit, en conséquence, elle a été pour le Christ un tabernacle digne de lui, non pas à cause de la condition de son corps, mais en raison de la grâce originelle. L'encyclique nous enseigne que la victoire de la Très Sainte Vierge sur le démon est une victoire passive. C'est le triomphe de la grâce par elle et en elle. Je cite l'encyclique, « préservée du péché originel par la grâce prévenante du Saint-Esprit, elle a triomphé du démon en étant une fille d'Adam, mais sans que Adam lui ait transmis le péché originel. L'erreur à ne pas commettre consisterait à penser qu'elle a triomphé par son mérite propre, distinct et indépendant de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la raison de l'opposition de Saint Bernard et de toute l'école thomiste jusqu'à la veille même de la définition. Après, les thomistes se sont inventés une histoire où ils ont toujours été les grands défenseurs de l'Immaculée Conception. C'est faux ! N'en ayons pas honte. Saint Bernard, le grand chantre de la Très Sainte Vierge Marie, le dévot par excellence, vous connaissez tous son opposition au dogme, à l'idée de l'Immaculée Conception, pas au dogme puisqu'il se soumettait à l'Église qui devait prononcer par la suite, mais à certaines idées qui avaient cours de son temps. dans sa fameuse lettre, où il dit que la Très Sainte Vierge Marie n'a pas besoin d'être louée par des louanges qui ne concernent pas la vérité de ce qu'elle est, il fait preuve d'une certaine crainte du pélagianisme. Saint Paul dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Si la Très Sainte Vierge Marie est définie comme n'ayant pas péché en Adam, mais indépendamment de la grâce de Dieu, la grâce du Christ plus précisément, même si c'est par un décret avant les temps, du Dieu créateur, du Dieu rédempteur, il n'empêche que Saint Paul dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Or, le Concile de Trente, lorsqu'il affirme l'universalité du péché originel, nous dit Pie IX, exclut de cette universalité du péché originel la Très Sainte Vierge Marie, mais attention, il ne l'exclut pas comme si par son mérite propre ou par un décret de Dieu indépendant de l'œuvre rédemptrice du Christ, la Très Sainte Vierge Marie avait pu être préservée du péché originel. Et c'est cela que Saint Bernard ne voyait pas. Il ne pouvait pas le comprendre, en quelque sorte, parce qu'il faut, que le magistère se prononce, mais il ne voyait pas dans les propos de ceux qui, à son époque, voulaient instaurer une fête de l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie, il ne voyait pas les garanties suffisantes pour éviter un pélagianisme unique, qui serait un pélagianisme qui serait faux pour tout, hérésie pour tous, sauf pour la Très Sainte Vierge Marie. La Très Sainte Vierge Marie n'a pas été exempte du péché originel par un décret constitutif de Dieu sans lien avec la rédemption. La grâce du Saint-Esprit lui est venue par notre Seigneur Jésus-Christ, le Rédempteur. Alors vous allez poser la question, peut-être d'une façon un peu outrée, est-ce que vous êtes en train de nous dire, est-ce que Saint Bernard est en train de nous dire, est-ce que Saint Thomas d'Aquin est en train de nous dire que la Très Sainte Vierge Marie a été rachetée? Est-ce qu'on peut dire, nous avons été rachetés parce que nous étions perdus? Est-ce que la Sainte Vierge a été rachetée? Laissez-moi citer l'encyclique. Oui, elle a été rachetée d'une manière plus sublime. Qu'est-ce que ça veut dire, plus sublime? Elle n'a pas été rachetée à la sauvette parce que par un Dieu qui n'avait pas vraiment besoin de la racheter. Elle a été rachetée d'une manière plus sublime. Comment sommes-nous rachetés? Dieu nous laisse descendre d'Adam. Nous naissons de nos mamans, marqués par le péché originel. Nous sommes des enfants de la colère, nous sommes des abîmes de péché, nous sommes tout entiers surmontés et marqués par la concupiscence. C'est ce qu'on appelle l'homme naturel. Lorsque Dieu nous voit, il a tellement envie de vomir, en quelque sorte, qu'il veut détourner son visage de nous, mais le Christ, en nous faisant administrer le baptême, nous réconcilie avec Dieu. C'est la doctrine de saint Paul. Nous sommes donc rachetés par l'application, par le sacrement du baptême, des mérites de la grâce, des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la façon normale d'être racheté. Comment la Sainte Vierge a-t-elle été rachetée d'une manière plus excellente? C'est les mots mêmes de l'encyclique, hein, plus sublime. Elle a été rachetée d'une manière plus sublime. Donc oui, la Sainte Vierge a été rachetée d'une manière plus sublime. Être racheté d'une façon normale, c'est naître enfant d'Adam, naître enfant de la colère, et recevoir le baptême et être réconcilié avec Dieu. La Très Sainte Vierge Marie a été rachetée d'une manière plus sublime parce que les mérites du Christ rédempteur lui ont été appliqués avant même sa conception. Comme dit l'encyclique, si elle n'a pas été souillée par le péché originel, c'est contrairement à l'ordre naturel. Ce n'est pas pour une raison qui lui est propre. Elle n'a pas été créée par Dieu, vraie femme, vraie créature humaine, mais indépendamment d'Adam. Il ne peut y avoir d'enfants d'Adam qui descendent d'Adam par la génération. La Très Sainte Vierge Marie n'aurait pas pu être préservée par Dieu du péché originel, même par un décret antécédent, un décret de prédestination antécédant à sa conception, à son apparition temporelle, si cela n'avait pas été en vertu des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que l'encyclique dit, par les mérites anticipés du Rédempteur, Jésus-Christ notre Seigneur, ob previsa Christi Domini Redemptoris merita. Et un peu plus loin, vers la fin du décret, vers la fin de la bulle, le pape définit encore plus clairement, il dit, nous déclarons, prononçons et définissons que, etc., etc., la Bienheureuse Vierge Marie fut, dès le premier moment de sa conception, par une grâce et un privilège singulier de Dieu, et en vue des mérites de Dieu Tout-Puissant, et en vue des mérites de Jésus-Christ, intuitu meritorum Jesu Christi, sauveur du genre humain, préservé, intact, de toute tâche du péché originel. Malheureusement, souvent, les traductions en français peuvent laisser presque comprendre un contresens. C'est pour cela que, heureusement, cette phrase est répétée plusieurs fois. C'est-à-dire qu'en prévision des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, on pourrait, un pélagien mariolate pourrait s'imaginer que la Très Sainte Vierge Marie, afin de rendre possible les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils, a été préservée du péché originel. Ce n'est pas du tout ça qui est dit. Il faut lire le latin pour le comprendre. D'ailleurs, il faut bien lire le français aussi, il suffit de bien lire le français. Vous voyez, nous déclarons, prononçons et définissons que la Bienheureuse Vierge Marie, dès le premier moment de sa conception, par une grâce et un privilège singulier de Dieu Tout-Puissant, et en vue des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, sauveur du genre humain, a été préservée intacte de toute tâche du péché originel. Donc, la Très Sainte Vierge Marie a été rachetée d'une manière plus excellente, plus sublime que nous, puisqu'elle a été rachetée avant même que d'exister. Et dès qu'elle a commencé à exister, sa rédemption était déjà en œuvre. La Très Sainte Vierge Marie a véritablement été rachetée, non pas comme nous, mais d'une façon plus sublime, mais comme nous, parce que sinon tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et viennent au monde pécheur, sauf la Sainte Vierge Marie, qui, étant vraie fille d'Adam, a été préservée dès sa conception de la tâche du péché originel, par la même grâce et par le même flux salvateur par lequel nous sommes sauvés, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'offertoire, nous dirons « Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus ». Je vous salue Marie, pleine de grâce. La Très Sainte Vierge Marie est le triomphe de la grâce efficace. Marie n'a de commun, dit l'encyclique, avec Adam que la nature et non la faute. Fin de citation. Sa nature a été puissamment prévenue par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la seule qui nous fasse infailliblement triompher du démon. L'encyclique dit ceci, « Ève, ayant misérablement écouté le serpent, perdit son innocence et devint son esclave, esclave du serpent. Tandis que la très bienheureuse Vierge Marie, augmentant sans cesse le don originel, loin d'ouvrir jamais ses oreilles au serpent, a détruit jusqu'au fondement sa force et sa puissance par la vertu qu'elle avait divinement reçue. La Très Sainte Vierge Marie a été rachetée par le même sang que nous, le sang de l'agneau, mais d'une façon plus sublime. La Très Sainte Vierge Marie, comme nous, peut s'entendre dire par Saint Paul, « Que n'es-tu que tu n'aies reçu ?» Si la Très Sainte Vierge Marie est ce qu'elle est, c'est par la grâce de Dieu, cette grâce même qui nous est donnée. La Bienheureuse Vierge Marie est donc le prototype de la créature rachetée par le Christ, qui, par la grâce du Christ, c'est-à-dire la vie qui provient de son incorporation au Fils de Dieu, n'est plus régie par la loi de la concupiscence, mais par la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Lorsque nous regardons la Très Sainte Vierge Marie, ne nous décourageons pas, mes très chers frères, parce que nous ne devons pas nous dire « elle a été préservée et nous ne sommes pas préservés ». Si l'on peut dire, la Sainte Vierge Marie a été baptisée avant sa conception. Voilà si vous voulez l'exprimer en des termes qui nous sont familiers. Nous sommes conçus, nous naissons et nous sommes baptisés, nous sommes régénérés. Elle, avant même d'être conçue, elle a été régénérée. Alors voyez-vous, mes très chers frères, Pie IX s'attendait à ce que la proclamation de ce dogme par le puissant patronage, je cite, par le puissant patronage de la Bienheureuse Vierge Marie, il s'attendait à ce que toutes les difficultés soient étant aplanies, toutes les erreurs vaincues, qu'il s'attendait à ce que la Sainte Mère, l'Église catholique, prospère, fleurisse de plus en plus chaque jour chez tous les peuples et dans tous les lieux, qu'elle règne d'un océan à l'autre, etc., etc., et que tous ceux qui sont dans l'erreur, dissipant les ténèbres de leur âme, reprennent le sentier de la vérité et de la justice, et qu'il n'y ait plus qu'un troupeau et qu'un pasteur. Fin de citation. C'est vers la fin de l'encyclique. Au lieu de cela, bon, c'était en 1854, moins de 20 ans plus tard, la papauté était privée de ses états temporels, le pape était relégué, emprisonné presque au Vatican, dans cette minuscule quartier de ses états, de ses anciens états. Au lieu de cela, il y a eu ce que nous savons. Et puis par la suite, je ne vous fais pas un dessin de ce qui se passe maintenant. Je ne sais pas si cela peut-être dû à la manière inouïe dont ce dogme a été promulgué. Toujours est-il que le mépris pour les avertissements de nos pères, en particulier de Saint Bernard, qui s'opposait à une fausse conception de l'Immaculée Conception, l'optimisme qui minimisait les effets de la chute et qui s'attendait à de grandes choses de la part de l'humanité entrée dans une pleine possession d'elle-même suite à la Révolution. Tout ceci a conduit les catholiques à envisager, contre le dessein du magistère, que les effets de la chute avaient, pour ainsi dire, cessé. Que la Bienheureuse Vierge Marie avait vaincu le péché originel pour tous, surtout pour les femmes, c'est à l'origine un puissant courant féministe, tout à fait extraordinaire, et conduisait les catholiques à envisager que, contre le destin du magistère, que les effets de la chute avaient, pour ainsi dire, cessé, que la Bienheureuse Vierge Marie avait vaincu le péché originel pour tous, et qu'en elle, tous pouvaient s'ériger aux côtés et au-dessus du Christ pour la plus grande gloire de l'Église. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les effets lamentables, en quelque sorte, d'une mauvaise compréhension de la promulgation du dogme de l'Immaculée Conception. Dogme qui est le nôtre, mais dogme qui n'est que celui que nous enseigne le magistère. Et ce n'est pas celui qui provient d'une interprétation délirante, pélagienne, finalement, de ce néo-catholicisme qui était en train d'apparaître à cette époque-là. Voilà ce qui arrive, mes très chers frères, quand on oublie que la Bienheureuse Vierge Marie est unique et que, comme nous tous, elle a été rachetée par l'unique Sauveur, notre Roi non découronné, Jésus-Christ. Ô Seigneur Jésus, donnez-nous votre grâce efficace et par l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, conduisez-nous dans votre gloire, vous qui vivez et régnez avec Dieu le Père et en unité du Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il. Thank you.